je ne vais commencer pas par cela, en tout cas de formation. Je suis Sandrine Jarre, j'ai été formé à Lyon, dans le cadre de l'université, dans une maîtrise sur de l'art, et petit à petit, je me suis beaucoup intéressé aux techniques d'études et de restauration des œuvres d'art. J'ai passé différents concours et depuis maintenant 12 ans, j'ai la chance de travailler dans un des plus grands laboratoires du monde, qui est complètement dédié à l'étude des œuvres d'art des musées. Je suis progressivement devenu une personne qui baigne dans un milieu de scientifique. Je suis un historien de l'art au milieu de scientifique, c'est un petit peu étrange. Mais mon voisin est directeur de recherche au CNRS, médaille d'argent du CNRS. La voisine suivante est spécialiste des glaçures sur les faïences italiennes du XVIe siècle et sur les sculptures de Della Robbia. À côté, j'ai un collègue conservateur qui, lui, s'occupera de la conservation préventive dans les musées. Je suis donc dans un lieu qui est assez étrange, où on multiplie on croise en fait les différentes spécialités, les différentes compétences, pour essayer de travailler ensemble sur un domaine qui est un domaine bien défini, lui, qui est le domaine du patrimoine, donc des objets d'art, des peintures, des sculptures, du mobilier. Et je suis donc au sein de cette équipe chargé de l'étude de tout ce qui relève des œuvres peintes. Donc chargé des études de peinture, sculpture polychrome, dessin et autres. Je suis plutôt spécialisé en études de peinture ancienne, ce qui explique pourquoi je commence par cette première image, cette image de tête. Vous voyez donc le laboratoire de l'atelier photographique de notre laboratoire, qui se trouve au Louvre, avec tous les parapluies argentés qui permettent de refléter la lumière sur les œuvres. Au premier plan, vous avez en ombre chinoise une de mes collaboratrices qui est photographe, qui travaille sur ordinateur. On est uniquement maintenant en photographie numérique. Et elle est en train de photographier un tableau qui est sans doute le tableau le plus célèbre du monde, qui est à l'arrière-plan, qui est moins qu'à Joconde. C'est une des rares personnes au monde à avoir manipulé à plusieurs reprises directement la Joconde. Et je vous en parlerai un petit peu plus en détail. Alors, je vais avoir besoin de votre aide. Voici un des grands chefs-d'œuvre du musée du Louvre. Je vais commencer par ce tableau parce que c'est l'œuvre d'un artiste absolument polyvalent, absolument génial, qui est l'un des plus grands génies de la Renaissance, c'est Léonard de Vinci, qui est connu, bien entendu, pour ses peintures, mais aussi pour toutes les inventions qu'il a pu faire, les machines volantes, les projets de systèmes d'attaque, les dessins d'anatomie qu'il a pu faire. Il a fait des dessins des fœtus, il s'est intéressé à toutes sortes de choses, le mouvement des courants, etc. C'est donc un artiste qui symbolise un peu le génie de la Renaissance, et puis aussi, peut-être, ce que nous faisons, nous, au sein d'un laboratoire, en essayant donc de réunir des sciences sur le chevet des œuvres d'art. Ce tableau-là a été commandé probablement par Louis XII, roi de France, pour commémorer la naissance d'un de ses enfants, de son premier enfant d'ailleurs, issu d'une femme qui s'appelait Anne de Bretagne. C'est pour ça que le sujet de ce tableau est centré sur Sainte Anne. Vous avez à l'arrière-plan Sainte Anne, donc la femme qui domine la composition. Au-dessous, dans la composition triangulaire, vous avez la Vierge, avec son enfant, l'enfant Jésus, qui tient un agneau, symbole de son futur sacrifice. C'est un chef-d'œuvre de la Renaissance italienne, un des tableaux les plus beaux qui puissent être donnés au Louvre, et que les conservateurs du département des peintures du musée du Louvre nous ont demandé d'étudier il y a maintenant environ 6 mois, je crois, ou un an. C'est peut-être dans le courant de juin 2009. Donc on approche un an, la suivante. Et lorsque le tableau a été décroché de la grande galerie du musée du Louvre, d'une part, on a pu retourner la peinture, on a regardé le dos, on s'est aperçu que c'était du bois, bien entendu, une peinture sur bois. Vous avez peut-être vu le reportage sur France 2 où Pujadas annonçait que c'était une peinture sur toile, ce qui m'a fait hérisser. C'était une peinture sur bois, composée de plusieurs planches, donc de peupliers, qui sont assemblés donc verticalement. Vous avez une planche ici, une planche là. Vous avez quatre planches de papier qui sont réunies par deux traverses incrustées qui sont en chaîne. L'œuvre a été augmentée latéralement par des allonges en chaîne qui ont été posées au 19e siècle. On a des dimensions du tableau qui font 168 cm de haut. Donc le tableau a été décroché de la Grande Galerie. Et à ce moment-là, on était quelques-uns présents dans la Grande Galerie. C'était un jour de fermeture du musée. Quand un collègue conservateur m'a dit « Je crois voir une tête de cheval, je vois quelque chose au dos de ce panneau, j'ai l'impression qu'il y a des dessins au dos. » On a tous été profondément dubitatifs, personne n'y voyait rien dans cette affaire. Je l'ai laissé causer en me disant « Bon, on verra au laboratoire si ce qu'il dit est vrai. » Et je n'y croyais vraiment pas une seconde. La suivante. Voilà donc un agrandissement de la zone où mon collègue conservateur voyait quelque chose, il voyait une tête de cheval, il voyait des os, une qualité de vie, et personne parmi les personnes présentes n'a cru vraiment ce qu'il conservait. Le tableau donc est ensuite parti au laboratoire et par acquis de conscience, j'ai fait appliquer sur ce revers toutes les méthodes d'imagerie scientifique que nous possédons au laboratoire et qu'on applique généralement au côté peint des œuvres. On a toute une gamme de méthodes d'examen que je vais vous présenter, qu'on applique systématiquement sur les faces, mais a priori on les fait pas sur les revers où il n'y a normalement pas grand-chose à rechercher. Donc j'ai fait appliquer sur cette œuvre une méthode assez particulière qui s'appelle la réflectographie infrarouge, qui est une méthode qui permet de rendre visible une partie du spectre électromagnétique qui est normalement invisible à l'œil nu. Vous savez que l'œil humain perçoit une partie du spectre électromagnétique qui va entre 380 nanomètres jusqu'à 780 nanomètres, du violet jusqu'au rouge, et qu'ensuite l'œil ne voit plus. Par contre, on a tous vu des caméras infrarouges qui sont braquées dans les portails de maison, par exemple, pour voir ce qui se passe de nuit, et on a nous une caméra assez sophistiquée qui découle de ce même principe et qui donne une image d'une partie du spectre qui est normalement invisible et qui se situe entre 800 nanomètres jusqu'à environ 1500 nanomètres. Et cette caméra a pour particularité de rendre plus visible certains pigments qui restent absorbants sous ce rayonnement alors que la plupart des autres pigments sont transparents. Donc on a fait appliquer la réflectographie infrarouge sur ce fragment d'œuvre, enfin on l'a fait sur l'ensemble du panneau, mais c'est ce fragment qui s'est révélé intéressant, oui. La suivante. Voilà la caméra qui a été utilisée. Voilà, la suivante. Et voilà le résultat. Donc effectivement, mon collègue avait bien vu des dessins au dos du panneau, il n'avait pas du tout rêvé, il y avait véritablement des dessins autour de ce panneau de la salle. Alors j'ai fait des petits agrandissements, le suivant, la photo suivante. L'un des dessins représente une tête de cheval. On la voit très nettement maintenant, donc avec des sourcils baissés, le museau presque chargé d'écume, les dents, la bouche ouverte, les dents très visibles. Une tête extrêmement puissante qu'on a tout de suite mis en rapport avec une œuvre très célèbre de Léonard de Vinci, qui est disparu depuis longtemps. C'est la fameuse fresque que Léonard de Vinci a peint pour le Palazzo Vecchio de Florence, qui représentait la bataille d'Anghiari. On en parle beaucoup en ce moment dans la presse, cette fameuse bataille d'Anghiari. Léonard de Vinci était un artiste génial, mais qui maîtrisait mal la technique. Et très souvent, les œuvres qu'il a faites se sont détruites très vite. Et c'est ce qui s'est passé pour la bataille d'Anghiari. La ville de Florence lui avait demandé une fresque représentant une fameuse bataille où les Florentins s'étaient illustrés. Et cette fresque s'est mise à se dégrader au fur et à mesure qu'il l'a peignée, tant et si bien qu'on a décidé d'élever un mur devant la fresque pour demander à un autre artiste de peindre quelque chose de différent. Et actuellement, des chercheurs sont en train de rechercher le mur sur lequel Léonard de Vinci avait peint pour tenter de retrouver cette fameuse bataille. Je ne pense pas qu'il y arrive. Mais en tout cas, ce cheval nous a tout de suite évoqué cette tête-là, de cheval qui se battent entre eux, comme les cavaliers se battent, les chevaux se battent également, qui est une copie faite par le peintre flamand Rubens, d'après un dessin de Léonard de Vinci, Rubens n'ayant jamais vu lui non plus la fameuse fresque de Léonard de Flandre. Donc voilà cette tête de cheval. La suivante, l'autre dessin, représente un demi-crâne, avec le front, le globe oculaire, la mâchoire supérieure, la cavité nasale, la mâchoire inférieure, il y a une rangée de dents. L'autre moitié devait exister, mais elle a été effacée lors d'une intervention de restauration. Quant au troisième dessin, le plus difficilement lisible, la suivante, il représente un enfant, on voit la tête, le nez, les yeux, le bras, là on distingue quelque chose. Cette tête d'enfant a pu être mise assez facilement en relation avec un dessin original de Léonard de Vinci, qui est conservé à Los Angeles, où l'on voit la même représentation d'enfant vu de trois quarts, tenant un agneau dans les bras. Donc ce dessin et cette esquisse sur le revers du panneau sont vraiment voisins l'un de l'autre. Nous sommes donc tombés sur des dessins qu'on a d'abord cru être complètement de la main de Léonard de Vinci, puisque c'était au dos d'un Léonard de Vinci. On est maintenant plus prudent. On sait que Léonard avait un atelier de personnes qui travaillaient autour de lui, et on pense qu'au moins que pour deux dessins, pour deux des figures qu'on a vues, qu'on a repérées au revers, que deux temps de ces esquisses sont dues à des élèves qui ont recopié des dessins de Léonard de Vinci sur le panneau. Le panneau était posé dos contre le mur, il n'était pas encore peint, et ils se sont servis de ce revers comme on peut servir d'un tableau noir pour faire leur copie de dessin. Le troisième dessin, celui-ci, est sans doute un original de Léonard de Vinci, en tout cas beaucoup de spécialistes y croient. Et ça nous permet donc de faire une découverte qui est née sous l'intuition d'un collègue conservateur, mais qui a été confirmée et révélée par les liens technologiques qui ont été développés au sein du laboratoire et dans différents laboratoires au monde. Voilà donc déjà une première approche de ce que peuvent apporter les sciences dans le domaine de l'art. Vous voyez, c'est tout à fait inattendu, mais les sciences peuvent enrichir directement l'art simplement par les méthodes qu'elles peuvent avoir développées. La suivante. Donc je travaille dans un laboratoire. Ceux qui sont allés au Louvre reconnaîtront sans doute cet immense bâtiment, cette espèce de monstre situé au cœur de Paris, avec donc une cour carrée, une entrée principale qui est maintenant la pyramide, deux ailes qui sont bourrées d'œuvres d'art. C'est un des plus grands musées au monde, un musée impossible à visiter en une journée, c'est beaucoup trop lourd pour cela. Et notre laboratoire se trouve ici, en sous-sol, en terrain, à proximité donc des hommes. Ce laboratoire est un laboratoire ancien, la suivante. Il a été fondé en 1931 par deux médecins argentins. Nous sommes très liés à la médecine. Il y a toujours eu des médecins qui ont travaillé avec nous au laboratoire. Encore aujourd'hui, nous avons un médecin radiologue qui fait des radiographies de tableaux. Oula. On va faire comme si rien ne se passait. Je pense sur le ou sur le peut-être sur la croix.
Ok, c'est bon.
Donc ces deux médecins ont fondé le laboratoire en 1931. C'est un des trois ou quatre premiers laboratoires au monde destinés à l'étude des œuvres d'art qui a été créé ainsi. Et il s'est développé doucettement jusque dans les années 39. Et malheureusement, la Seconde Guerre mondiale nous a obligés à tout emballer, à supprimer ce laboratoire à cause de la Seconde Guerre. Possible de le faire vivre. Malgré tout, certains travaux ont été faits. La suivante, c'est par exemple la première radiographie de la Joconde. Je reviendrai parce que j'ai une radiographie plus récente qui a été faite en 1933, où on a du mal à voir quoi que ce soit d'ailleurs. C'est un document qui est pratiquement illisible, mais ce sont les radiographies souvent, qui ont été le moteur dans la création des laboratoires, parce qu'on s'est très vite aperçu que la radiographie, donc traversant grâce au rayon X l'ensemble de la matière, pouvait donner des informations extrêmement précieuses sur les couches profondes et révéler des éléments de composition qui étaient normalement invisibles à l'œil nu. Je vous en montrerai deux exemples. La suivante. Certains instruments un petit peu bizarres ont été mis au point par les chercheurs du temps. Vous voyez, les scientifiques se trompent parfois. Quelqu'un a inventé le pinacoscope, qui était une façon de voir les œuvres par un système de double visée. On voit donc le docteur Pérez utilisant cet instrument qu'on a toujours au laboratoire, on l'a conservé précieusement, mais vous voyez qu'il est appliqué sur la peinture, qui est à Delacroix, avec tous les risques de perforation de l'œuvre. C'est un instrument qu'on a très vite abandonné, c'était une expérience malheureuse qu'on s'est empressé d'oublier. Ensuite, Le laboratoire donc, est renaît après la Seconde Guerre mondiale grâce à Madeleine Ours, une femme de tête qui a été responsable du laboratoire pendant une vingtaine d'années, qui était très proche d'Henri Malraux et qui a relancé les activités du laboratoire, qui est maintenant la suivante. Un établissement ultra-moderne, donc complètement en sous-sol. Donc vous avez ici une vue, c'est un bâtiment sous trois niveaux enterrés, complètement vitré, afin que la lumière naturelle puisse pénétrer le plus profond possible dans les bureaux et dans les ateliers. Le tout est relié par des passerelles, des coursiers. C'est comme une espèce de vaisseau en multi sous terre, à proximité de l'Arc de Triomphe du Carrousel, donc à l'une des extrémités du Louvre. Et vous avez ici une équipe donc, de chercheurs et photographes qui travaillent sur la Sainte-Anne, dont nous avons vu une photographie au tout début. La suivante. Alors, ce laboratoire développe donc des méthodes d'études des œuvres d'art qui sont globalement de trois types. Je vais vous les présenter les unes après les autres. Donc, ces trois méthodes principales sont les méthodes d'imagerie scientifique, les méthodes d'analyse sur prélèvement, donc avec un enlèvement d'une particule de matière, et les méthodes d'analyse non destructive, on dit aussi non invasive, qui permettent d'avoir des informations sur les œuvres sans faire aucun prélèvement. Vous avez en face, par exemple, ici, sous cette illustration, le scribe accroupi, qui est l'un des chefs-d'œuvre de collection égyptienne du musée du Louvre, dont il était bien entendu inenvisageable de prélever une partie pour faire des analyses, et qu'on a dû étudier avec des méthodes non invasives, non destructives, que je vous présente. La suivante. L'intérêt de ce laboratoire, c'est qu'il est en connexion directe avec le musée du Louvre. C'est-à-dire que les œuvres peuvent être acheminées directement dans notre laboratoire sans sortir par l'extérieur, par une voie souterraine, interdite au public, bien entendu, qu'on appelle la voie de dessert intérieur, la VDI. Et c'est par ce cheminement que les œuvres arrivent jusqu'à nous, soit non emballées, ça arrive souvent, soit lorsqu'il s'agit d'œuvres importantes, elles nous arrivent dans des caisses comme celle-ci. Vous voyez qu'elle est accompagnée par sept personnes qui convoient cette œuvre en caisse. On la voit amener, donc c'était un soir de 2004, il était je crois 7h du soir, la suivante. La caisse a été ouverte. Et c'est donc la Joconde qui était dans la caisse, qui a été livrée aux analyses du laboratoire, de façon à ce qu'on puisse faire une étude aussi approfondie que possible. Le tableau ne sort pratiquement jamais de sa vitrine. Nous n'avions pas eu au laboratoire depuis 50 ans. Beaucoup de nouveaux instruments avaient été mis au point, donc on avait l'espoir d'avoir des informations nouvelles, mais c'est une œuvre qu'on ne peut pas se permettre de soustraire au regard du public. Donc le tableau est arrivé lundi soir, à 6h du soir. Nous avons commencé nos études à 6h30 du soir, en travaillant jour et nuit. Donc les équipes se sont succédées toute la nuit du lundi au mardi. Le mardi, le musée est fermé, donc on a pu travailler toute la journée sur le tableau. Travailler le mardi soir, jusqu'au mercredi matin à 6h, et à 6h du matin, l'œuvre a été remise en caisse, reportée dans la salle des états, réaccrochée, et comme si de rien ne s'était passé, les visiteurs ont pu retrouver la Joconde comme si elle n'avait pas bougé. Pourquoi a-t-on eu à étudier la Joconde? C'est parce que les conservateurs étaient très inquiets, en fait, de ce qui se passait sur ce tableau. Comme la Sainte-Anne de Léonard de Vinci, la Joconde est peinte sur bois. La plupart des peintres florentins du XVIe, et la plupart d'ailleurs des peintres en général du XVIe siècle, peignent sur bois. Et la Joconde est victime d'une fente du bois, qu'on voit bien sur la face, par la partie haute du panneau, et qui va jusqu'au niveau du front du modèle, et que l'on voit aussi sur le revers, où elle est renforcée par une sorte de papier, de toile collée sur le dos, et bloquée par deux papillons. Donc cette fente inquiétait beaucoup les conservateurs du Louvre, parce qu'ils trouvaient que cette fente bougeait, ils avaient l'impression que des petites écailles de matière se formaient aux lèvres de la fente, et ils nous ont demandé de faire une étude fine sur cette œuvre, parce que bien entendu, imaginez que la Joconde se casse en deux, là on peut avoir une campagne de presse mondiale est vraiment un scandale international, dont le Louvre voulait absolument s'épargner la gestion. Il fallait absolument savoir ce qui se passait sur cette fonte de la Joconde, est-ce qu'elle évoluait, est-ce qu'elle était stabilisée, est-ce qu'il y avait des risques ou non. Et c'est pour ça qu'on nous l'a confié. La suivante. Pour profiter de la venue de la Joconde au laboratoire, on a développé toutes les méthodes d'imagerie non invasives. Là, je vous ai mis un schéma que vous pouvez connaître bien mieux que moi, qui est le schéma du spectre électromagnétique, hein, juste pour vous rappeler. Donc, je reviens sur ce que j'ai dit précédemment, que le visible va de 380 environ jusqu'à 750. Ensuite, on est dans l'infrarouge, donc au-delà de 780 nanomètres, environ 1500, proche et moyen infrarouge et au-delà pour l'infrarouge lointain. Je vous parlerai également des ondes courtes, de l'ultraviolet, du rayonnement X, et également des flux de protons qui sont, je crois, encore plus courts que les trois qui génèrent des réponses encore plus pointues que courtes que le rayonnement X. La suivante. Voilà donc une partie de l'étude qui a été faite sur la Joconde, qui a donné lieu à un ouvrage qui est sorti chez Gallimard en 2004. Où on présente toutes les méthodes qui ont été employées pour la connaissance de ce tableau. Tout est illustré. C'est un ouvrage assez grand qui permet d'avoir une vision très fine des détails de l'œuvre. La photographie qu'on connaît tous, bien entendu, c'est la photographie en lumière directe. Mais on a donc augmenté la documentation par différentes photographies faites sous différentes lumières que je vais vous présenter. A commencer par la photographie de fluorescence sous ultraviolet. Les ultraviolets donc, ont pour particularité de faire fluorescer les couches organiques qui se trouvent en surface, qui prennent une couleur un petit peu verte ou jaune selon leur degré de vieillissement. Et on utilise donc beaucoup l'ultraviolet pour connaître l'état du vernis qui recouvre le tableau. De plus, on peut observer certaines taches noires sous ce type de document, qui nous permettent de localiser les retouches qui ont été faites sur le vernis, qui ne fleurissent pas, qui restent noires sous ce type d'examen. Donc, grâce à ça, on peut voir que le tableau est verni, par un vernis très épais, et que ce vernis est assez irrégulier. Il n'a pas une surface uniforme, il y a des profondes irrégularités qui sont dues aux différents nettoyages qui ont été faits sur le tableau au cours du temps. Et on peut voir aussi, grâce à cette ligne verticale, que la fente de la Joconde est un souci qui est récurrent et qu'on est déjà intervenu à plusieurs reprises sur ce tableau en faisant des petites retouches pour calmer les lèvres de la fente. La suivante. Là, voici, nous sommes là dans les rayons X, donc au-dessous, voici la radiographie de la Joconde, qui est un document absolument étonnant. Vous verrez une autre radiographie d'un tableau, celle-là est très, très surprenante parce que bon, dans un premier temps, grâce à la radiographie, on observe très nettement le fil du bois. On voit là que la planche, il y a une seule planche, est limitée sur d'os. Donc on voit les cernes de bois qui apparaissent de part et d'autre de ce qui correspond au cœur. On voit cette planche a été débitée régulièrement. On voit le tracé des cernes également assez nettement. On voit une différence d'épaisseur aussi dans certaines zones qui correspondent à des partie où la préparation est plus ou moins épaisse. Et on distingue une sorte d'image fantomatique qui correspond au contour du modèle, image pratiquement imperceptible et qui est typique de Léonard de Vinci, qui a toujours voulu avoir le maximum de finesse dans ses rendus, dans la faible épaisseur de sa couche picturale, de façon à tout fondre, de façon à tout harmoniser dans une ambiance générale. Vous verrez que d'autres tableaux sont beaucoup plus faciles à lire, la suivante. Et on a du mal donc sur la radiographie à localiser les contours exacts du modèle. Il faut céder d'un dessin au trait pour repérer donc la tête du modèle, ses yeux, le paysage. C'est quelque chose de peint avec presque pas de matière. C'est un caractère de Léonard de Vinci que de chercher à rendre le modèle sans mettre presque de peinture. La suite. D'autres types de documents ont été réalisés, comme ces photographies sous infrarouge. Là, on est de l'autre côté du spectre. Vous avez une photographie infrarouge en noir et blanc, et une photographie en infrarouge en fausse couleur, où on a manipulé en fait, les filtres colorés qui permettent la restitution visuel du chromatisme d'un tableau. Et l'intérêt de ce document, c'est qu'il travaille sur les spectres de réflectance des différents pigments. Vous savez que ce que l'œil perçoit comme étant du bleu est en fait le résultat d'une combinaison de spectres différents. Le bleu de la lapis-lazuli, par exemple, est composé d'un pic de bleu mélangé à beaucoup de rouge, alors que d'autres bleus ont un spectre qui est plus cantonné sur le bleu proprement dit. Grâce à ça, lorsque des pigments différents sont utilisés dans une même zone, on voit des différences qui apparaissent de façon chromatique. Je m'explique. Le bleu du ciel de la Joconde est un bleu en lapis-lazuli. Lorsqu'on travaille l'image en fausse couleur, le lapis-lazuli apparaît en rose. Mais les retouches qui ont été faites sur la Joconde pour le ciel n'ont pas été faites en lapis-lazuli avec un pigment moderne qui n'a pas le même spectre de réflectance. Ce qui fait que les retouches faites dans le ciel apparaissent en bleu. Donc on peut très nettement voir, au moins pour le bleu, quelles sont les zones authentiques, quelles sont les zones retouchées. On peut donc voir sur ce tableau que la plupart des bords du tableau ont été repeints puisqu'ils n'ont pas la même réponse chromatique en fausse couleur que le reste de la composition. Vous me suivez ? La suivante. Je vais là dans la réflectographie infrarouge. Je vous avais montré la réflectographie infrarouge pour la Sainte Anne, et en principe la réflectographie infrarouge de la Joconde cette fois-ci, où on s'aperçoit qu'on voit beaucoup plus nettement l'image, où on voit mieux la composition. On s'aperçoit que cette femme qui a un petit peu l'air d'une matrone est en fait une jeune femme qui est assise sur un siège, mais à peine sur le tableau. Un siège, donc avec un dossier qui est monté sur des colonnettes, qu'on distingue en partie basse. Donc son bras gauche repose sur l'appui de siège. Son corps est beaucoup plus fin qu'on le suppose. L'épaule gauche est plus mince. L'épaule droite passe de façon plus serrée autour du corps. Et ce qui peut introduire une confusion dans la lecture de l'image est le fait qu'elle est en fait environnée de voiles. Toute la partie donc, qui l'entoure sont des voiles de gaz qui l'enveloppent et qui lui donnent l'impression d'être plus épaisse qu'elle n'est. Et la réflectographie infrarouge nous donne une image plus précise de ce à quoi devait ressembler le tableau avant qu'il commence à vieillir, tout en trahissant le résultat final. Enfin, ça donne des indications sur la genèse, la composition de l'œuvre, comme a pu le concevoir Léon Andrés. La suivante. Nous avons également fait des photographies du revers. Vous avez la photographie du panneau de bois au dos. Vous avez une photographie à lumière rasante qui montre bien le fil du bois. Et nous avons appelé à la rescousse des collègues étrangers, notamment les collègues du Canada, qui ont amené avec eux un système de numérisation en trois dimensions par laser, qui est obtenu avec un appareil qui a été utilisé, je vous ai dit, la NASA que nous avons appelé, c'est le Centre National de la Recherche Scientifique du Canada que nous avons appelé, mais ils ont amené un appareil qui est utilisé par la NASA pour faciliter l'ajustement des nez de navettes spatiales. Ça nous permet d'avoir une image en trois dimensions extrêmement précise des reliefs de la peinture. Là, c'est l'image que vous avez à droite. Ça a été obtenu au moyen de trois lasers qui ont donné une image en trois dimensions du relief de la peinture, qui est pourtant extrêmement fin. Et ça nous permet de mesurer donc les différences d'irrégularités dans le support de bois, mais aussi dans le relief de la couche. C'est une image assez spectaculaire qui a été obtenue. Donc on peut la manipuler, on peut la faire tourner en relief. On a la face et le dos. Ça pèse un poids énorme au niveau informatique, mais c'est aussi l'avenir de la recherche en œuvre d'art que de pouvoir travailler sur des simulations en trois dimensions des œuvres sans avoir nécessairement l'œuvre à proximité. Nous faisons beaucoup de développement de ce côté-là. On numérise en trois dimensions beaucoup de vases grecs en ce moment, justement pour essayer de ne plus avoir à manipuler trop les objets lorsqu'on se pose des questions, mais avoir une sorte d'artefact en trois dimensions numériques sur lequel on puisse travailler. La suivante. La fente donc, a été étudiée par différents moyens. Ce qui nous intéressait, c'est de savoir comment se comportait le panneau en fonction des variations de température et d'humidité. Vous savez que l'humidité relative est extrêmement importante pour l'évolution d'un panneau. Un panneau joue avec les changements d'humidité. Donc on a fait toute une série de mesures, des traverses qui ont été posées au revers de l'œuvre. Et pour cela, nous avons cette fois-ci sollicité l'aide de plusieurs équipes du CNRS français et de spécialistes du bois florentin, puisque Léonard Vinci est un artiste natif de Florence. On a jugé de bonne politesse que de l'inviter des Florentins à travailler sur le tableau, ce qu'ils ont fait avec grand plaisir. La suivante. Ça nous a permis d'avoir des courbes aussi barbares que celle-là, où on peut mesurer les différentes forces de déformation et de par contraction et extension, exercé sur le panneau. Là, vous en savez beaucoup plus que moi, je pense, pour l'exploitation, mais on sait maintenant où se trouvent les zones de tension, où sont les zones de bon mouvement, de courbure. Hein. C'est pour vous montrer jusqu'à quel point de détail on peut aller pour étudier le comportement physique d'une œuvre. On ne fait pas ça pour toutes les œuvres, tous les musées, mais là, je trouve que c'est un tableau tellement important que ça a été vraiment un endroit où beaucoup d'énergies se sont concentrées, et toutes ces énergies ont permis d'avancer dans les connaissances et de mettre au point des protocoles qui sont peut-être plus légers, mais qui peuvent être plus facilement adaptés aussi à toutes sortes d'œuvres. La suivante. Mais en fait, ce ne sont pas ces mesures de mouvement qui ont été déterminantes pour comprendre ce qui se passait sur le tableau, notamment au niveau de la fente, c'est l'imagerie. Ce sont les documents d'imagerie, notamment ce cliché qui est un cliché où on a extrait les réseaux de craquelures de l'œuvre. On voit bien que selon la peinture utilisée, les craquelures n'est pas la même. Les zones où la peinture est brune sont beaucoup plus craquelées, les zones où la peinture est blanche sont des craquelures plus larges. Et surtout, on s'est aperçu, la suivante, que l'on remarquait sur le panneau des craquelures diagonales situées sur trois des angles de l'œuvre, sur l'angle inférieur droit, le supérieur gauche, et l'angle supérieur droit et l'angle inférieur gauche, alors que vous n'aviez pratiquement pas de craquelure diagonale sur l'angle supérieur gauche. Et c'est un fait qui nous a beaucoup intéressé parce qu'il n'y a plus une seule façon d'expliquer pourquoi s'est formé un tel réseau de craquelure aussi irrégulier. La suivante. C'est en... En admettant que le tableau a été peint alors qu'il était engagé dans un cadre, maintenu dans un cadre extrêmement serré par la face et par le revers. On en a des preuves par la face parce qu'on a une barbe de matière qui est bien visible sur les bords, qui montre qu'il y avait un cadre sur la face, mais ce qu'on n'avait pas réalisé jusqu'à présent, c'est que ce cadre enserrait complètement l'œuvre sur le revers, ce qui fait que l'œuvre était contrainte. Et lorsque le bois de peuplier mal débité bougeait, ça a généré la création de craquelures directionnelles qui ont été provoquées par cet excès de contrainte. Le panneau donc a été contraint, les craquelures se sont formées dans le sens des contraintes, et les craquelures étaient tellement fortes dans l'angle supérieur gauche que le panneau n'a pas eu d'autre choix que de se briser à cet emplacement-là pour libérer les forces. Le tableau s'est donc fendu extrêmement tôt, alors qu'il est encore maintenu dans un cadre, et l'on sait que les craquelures se forment environ 50 à 100 ans après la création d'une œuvre. Donc on peut en déduire, puisqu'il n'y a pas de craquelure dans l'angle supérieur gauche, que la fente s'est produite avant même le début de la formation des réseaux de craquelures, peut-être même du vivant de Léonard de Vinci, qui avait mal conçu le montage initial de son œuvre, qui avait trop contraint, que le panneau n'a pas eu d'autre choix que de se fendre pour se libérer de contraintes. Ça nous a rassurés, parce que si la fente est aussi ancienne que ça, on peut penser qu'elle évolue mais légèrement, et qu'il n'y a plus de menace de voir le tableau se fendre en tout. La suivante. Voici un autre exemple d'exploitation de la radiographie sur un tableau de Courbet. On y verra, je pense que vous le voyez encore. Voici donc un tableau de Courbet qui représente l'homme blessé. C'est un tableau que Courbet, un peintre français du 19e siècle, a mis 10 ans à peindre. Il a commencé vers 1844, pardon, et terminé en 1854. Et la composition actuelle est très célèbre. C'est un tableau qui est au musée du Petit Palais à Paris. Il représente un homme, c'est en fait un autoportrait du peintre, qui s'est souvent représenté lui-même en peinture. Un homme donc allongé sur un arbre, il a l'air de souffrir. Il y a du sang sur sa chemise, il a l'air de tenir aussi une blessure sur la main. Et puis vous avez sur la, la gauche de la composition une épée. Donc Courbet, soit s'est battu en duel et agonise maintenant sous l'effet d'une blessure, soit a tenté de suicider, mais c'est plutôt la première solution qu'il faut imaginer. En tout cas, c'est un homme de douleur qui est représenté ici. Et on s'est longtemps demandé pourquoi il s'était représenté dans une telle attitude. On sait qu'il aimait se mettre en scène, mais on ne voyait pas tellement la raison de ce tableau. Et c'est la radiographie en fait qui nous a donné la solution, parce que lorsqu'on regarde la radiographie, on aperçoit plusieurs images en fait les unes sur les autres. La suivante. Alors on voit d'abord l'image du tableau actuel, donc avec son visage, la chemise, tout est là. Dans cette image, on s'aperçoit aussi qu'il y a d'autres choses sous cette image. La radiographie donc pénètre profondément et donne des indications blanches pour toutes les zones où le passage du rayonnement est bloqué par des pigments lourds, du genre blanc de plomb, jaune de plomb et d'étain, le vermillon qui est à base de mercure. Donc ça donne des informations sur les changements de composition réalisés avec ce type de matériaux. Et l'on voit ici qu'un visage donc, chargé en blanc de plomb mélangé avec quelques pigments apparaît sur la radiographie. C'est un visage de femme. Quand on voit le nez, les yeux et la coiffure. Courbet a donc réutilisé un portrait pour faire la composition qu'il a peinte par-dessus. Il avait une vieille toile qui était dans son atelier et s'en est servi pour refaire une nouvelle œuvre. C'est quelque chose qu'il fait très souvent, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Donc ses invendus, les œuvres qu'il considérait comme ratées, il a préféré repeindre par-dessus plutôt que d'acheter une nouvelle toile. Mais plus encore, il y a d'autres choses qui apparaissent sur la radiographie, la suivante. On s'aperçoit qu'il y a une main, ici une main d'homme, qui ne correspond à rien de ce que l'on voit sur la composition, il n'y a plus de main ici, et qu'il y a une autre main levée comme ceci, en partie basse. C'est une image qui devient plus compliquée encore, et qu'on n'aurait sans doute pas pu expliquer si, la suivante, on ne possédait pas un dessin de Courbet, représentant cette composition avec ces deux fameuses mains. Vous voyez que la position de la tête est la même, et les deux mains dont on parlait sont ici. Et il est en train d'enlacer une jeune femme. Et c'est cette comparaison entre la radiographie et le dessin qui nous a permis d'une part de repérer le visage de la jeune femme. Vous voyez le nez de la jeune femme, sa bouche, son menton est ici. Donc elle est bien là. Ce dessin est donc bien préparatoire à la première version de cette peinture, et comprendre ce qui s'est passé. En fait, Courbet s'est représenté dans un moment de félicité absolue, tenant dans ses bras sa maîtresse, Virginie Binet, dont il avait eu un enfant, vers 1844. Puis le couple s'est séparé, environ 8 ans plus tard. Courbet a vu sa jeune compagne s'éloigner avec son enfant. Et ne supportant pas cette séparation, il a décidé de recouvrir son tableau et de le transformer en homme blessé, qui souffre de la blessure qu'il vient de recevoir et qui gomme l'image de l'aîné. La suivante. Encore une image de réflectographie infrarouge, cette fois-ci pour la Sainte Anne de Léonard de Vinci, toujours. Voilà la caméra qu'on utilise maintenant pour la réflectographie infrarouge. Et vous voyez la suivante. L'image obtenue en photographie infrarouge devient plus claire. Si on peut faire un tout petit retour en arrière, regardez bien l'arbre, par exemple, qui se trouve ici, ou la zone qui se trouve là, vous verrez que le tableau est tellement noyé sur les vernis et à vie que l'on ne peut plus véritablement voir les détails de la composition. On retourne en arrière. Vous voyez, l'arbre est devenu noir, du fait en fait du noircissement de pigments, c'est le noircissement du résinate de cuivre. Le lion cuivrique utilisé dans le pigment vert a migré dans le vernis de façon irréversible, a plombé en quelque sorte, a noirci l'image de la représentation de cet arbre, tandis que le socle sur lequel les deux femmes sont assises est devenu complètement invisible sur le tableau. Et suivant, on va revenir. Et donc, on voit beaucoup plus de choses grâce à ce type de document, ça éclaire la composition. La suivante. Et l'examen rapproché nous apporte beaucoup d'informations également sur la façon de faire de l'artiste. Vous pouvez remarquer ici qu'il y a de tout petits points qui bordent les principaux contours de leur présentation, autour de l'œil, sur le front, sur le sourcil, sur le pourtour du voile. Je les ai repérés tous sur ce schéma. Et ces petits points ont une signification bien particulière. Ça veut dire que Léonard Vassy avait a commencé l'exécution de son œuvre par un carton préparatoire, donc un carton dessiné à vraie grandeur, qu'il a ensuite perforé. Il a percé son carton d'une multitude de petits trous. En fait, il a perforé son carton et une autre feuille de papier. Il y avait deux feuilles l'une sur l'autre. Et la seconde feuille de papier qui a été perforée a été remise sur le panneau et recouverte de poudre de carbone noir, de façon à ce que les trous de perforation permettent d'avoir le contour des principales formes souhaitées. Donc cette image permet de certifier que Léonard de Vinci avait utilisé un dessin préparatoire pour cette composition, et ça nous donne des informations sur la nature de ce dessin, parce qu'on sait maintenant à quoi il ressemble, et on sait qu'on l'a perdu. C'est un dessin qui a disparu comme de très nombreux dessins. Par contre, on a un autre carton préparatoire existant pour cette composition, mais qui a été abandonné par l'artiste, un carton qui est conservé au musée de Londres, la suivante, et qui montre donc à quoi pouvait ressembler un carton de Léonard de Vinci pour une autre version de la Sainte Anne. C'était comme cela qu'il procédait, en travaillant par palier, donc d'abord des petites esquisses sur dessin, ensuite des cartons de plus grande taille, qu'il modelait, avant de procéder à un report de composition sur le panneau et de passer à l'exécution. La suivante. Les examens que nous conduisons, bien entendu, ne s'arrêtent pas simplement à l'examen de l'imagerie, on passe au travail sur binoculaire. Vous avez une collègue qui examine la Joconde sous loupe binoculaire, la suivante. Ce qui nous donne des images beaucoup plus fines du mode de faire, voilà l'œil de la Joconde, la suivante. Et pour Léonard de Vinci, je vous ai montré la radiographie où vous voyez que la matière s'est devenue de plus en plus fine, plus imperceptible. C'était aussi le cas en binoculaire. Plus on s'avance à la détail du paysage, plus on a eu l'impression de perdre complètement l'image, tant la couche picturale était fine. Vous avez sur la gauche un détail du paysage, où on voit que quelques grains de lapis-lazuli sur un fond clair, et on réalise que c'est avec presque rien qu'il a réussi à créer cette image. Mais l'examen sous binoculaire est important, mais il n'est pas suffisant. Il faut donc qu'on passe aux méthodes invasives, suivantes, dont je vais vous présenter quelques exemples. Ce sont des prélèvements. Donc on part sur. On prend un petit scalpel et on prend une tranche de peinture, toute petite, c'est pas plus gros qu'un boudon, pour polir la coupe, faire une stratigraphie pour étudier la superposition des éléments constitutifs, que l'on étudie ensuite selon différents procédés. Là, vous avez donc une coupe stratigraphique d'un tableau de Raphaël, où on voit la superposition d'éléments. Là, vous avez une couche qui correspond à la couche de préparation, une couche de rouge, plus une couche de bleu. C'est le résultat qui est donné donc, par la photographie de ce qui a été obtenu au microscope optique à fort grossissement. Ensuite, ce microscope optique donne des indications chromatiques, il permet d'observer la superposition de couches, mais on le complète généralement par l'étude au microscope électronique à balayage, on appelle ça le MEB, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un instrument extrêmement perfectionné qui doit avoir une vingtaine d'années, je pense, ça doit être plus environ 20 ans. Ça permet de faire des grossissements considérables, on peut grossir jusqu'à 100 000 fois une coupe, donc avoir une image colossale. Et l'intérêt de ce microscope électronique à balayage, au-delà du grossissement qu'il permet, c'est qu'il est couplé à un spectre de rayonnement X que l'on peut orienter sur le plus petit grain souhaitable de la coupe. C'est-à-dire que j'ai la possibilité, on a des images en noir, on n'a plus de couleur, mais on a la possibilité d'orienter un faisceau d'électrons X sur, par exemple, ce grain de matière, ou ce grain. Et on aura des réponses de spectres qui vont nous dire ce grain est du plomb, ce grain est du cuivre, ce grain est du mercure, et on peut l'identifier grain à grain, faire des cartographies ensuite, on peut identifier grain à grain les matériaux constitutifs de la couche. Donc c'était fait avec le microscope électronique à balayage. La suivante. On a également d'autres appareils qui nous permettent d'étudier les éléments plus légers, les liants, les vernis, les cires, les résines, les œufs. Et là, on est obligé de détruire complètement les échantillons. On utilise ce qu'on appelle la chromatographie en phase gazeuse ou en phase liquide. Ce qui se passe donc, pour faire cette étude, c'est qu'on prend l'échantillon, on le chauffe et on le laisse s'évaporer, ou bien on le dilue. L'échantillon s'évapore et va ensuite emprunter, cheminer le long d'une colonne très longue qui va dissocier les éléments. C'est-à-dire que les éléments les plus légers vont sortir en premier du haut de la colonne, ensuite viendront les éléments de plus en plus lourds, jusqu'aux éléments vraiment très lourds. Et à l'extrémité de la colonne, vous allez avoir un appareil qui va récupérer les informations et qui va donc repérer les éléments au fur et à mesure qu'ils vont sortir, les premiers étant les plus légers, les suivants étant les plus lourds. Donc, l'appareil qui mesure ces composants s'appelle la spectrométrie de masse. Et grâce à ça, on va pouvoir voir quelle est la proportion d'acide stéarique ou d'acide palmitique dans telle ou telle résine. On va pouvoir différencier les différents composants et avoir une information plus précise sur l'échantillon qui aura été détruit dans l'opération. On perd l'échantillon malheureusement pour cela. On n'a, en l'état actuel des choses, pas d'autres possibilités. La suivante. À quoi sert tout cela? Je vais vous en montrer un exemple. C'est pour le plus grand tableau du Louvre, le plus grand tableau ancien, parce qu'il y a des tableaux du 19e et surtout à Orsay qui sont encore plus grands, mais celui-ci date du 16e siècle. C'est une œuvre du vénitien Paolo Veronese, Les Noces de Cana, qui fait 67 mètres carrés de surface. C'est quelque chose de gigantesque, qui représente donc un festin en présence du Christ. Et c'est un tableau que nous avons dû restaurer donc, il y a quelques années. Et lors de la restauration, on est tombé véritablement sur une difficulté importante qui se trouve à cet emplacement. Vous avez ici un intendant vêtu d'une robe hein, rouge qui surveille le bon déroulement du festin. Et pour nettoyage de vernis d'une peinture, les restaurateurs utilisent des solvants qui vont dissoudre les résines et leur permettre de les enlever. Or, tout s'était bien passé jusqu'à présent, le nettoyage s'est passé vraiment de façon très commode. Les restaurateurs n'avaient aucune difficulté, et lorsqu'ils sont arrivés sur ce manteau, ils se sont aperçus que la peinture partait. Donc il y a eu vraiment une inquiétude. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que le marron de ce manteau s'en va? Voilà un détail du manteau de l'intendant, et on a fait une petite fenêtre pour voir un petit peu ce qui se passait. On s'est aperçu que sous le marron, il y avait une autre couche, une autre couleur qui était un vert. Et la question qui s'est posée, c'est est-ce que le manteau de l'intendant peint au marron est un manteau original qui aurait été repeint par Véronèse, que Véronèse aurait changé d'avis, et aurait jugé que le manteau vert n'était pas beau, qu'il fallait le remplacer, ou est-ce que ce manteau marron était un repeint plus tardif? Et c'était quelque chose de déterminant pour savoir si on l'enlevait ou non, ou s'il fallait le conserver ou non. La suivante. On a donc fait une coupe stratigraphique où on a vu très nettement la superposition de couches avec donc une couche de préparation, une petite couche intermédiaire qu'on appelle la couche d'impression, le verre qui est un verre au cuivre, pas de vernis du tout entre au-dessus. Souvent, quand on a affaire à une œuvre repeinte, il y a toujours une couche de vernis qui marque la frontière entre les différentes épaisseurs qui nous facilitent le choix, et puis le fameux brin par-dessus. Première indication tout de même, on a observé que les craquelures du verre avaient été bouchées avec un enduit, donc que les craquelures avaient déjà eu le temps de se former avant qu'on pose l'enduit de bouchage et qu'on recouvre le tout par cette couche bleue. Mais c'est la chromatographie en phase gazeuse, donc des deux couches, qui nous a apporté la solution, parce qu'on s'est aperçu que le manteau vert avait une proportion palmitique et stéarique, l'huile du manteau, donc avait une proportion d'acide stéarique et palmitique tout à fait comparable à ce qu'on trouvait sur le reste du tableau, tandis que l'huile du manteau brun avait une proportion complètement différente et provenait véritablement d'un autre atelier, d'un autre pratique. Il s'agissait donc d'un repeint, ce manteau vert a été recouvert à l'intérieur par un manteau brun, donc il était pas d'origine, ce qui nous a permis de prendre la décision d'enlever la couleur brune pour retrouver le manteau vert. Je ne sais pas si j'ai le résultat. Ensuite, le voilà. On s'est aperçu que le manteau était beaucoup plus beau que précédemment, avec des rayons jaunes, que l'effet chromatique tout à fait réussi, que ce manteau brun débordait sur la main, qu'on avait eu raison de le faire. Il y a toujours des risques quand on se lance dans cette opération, parce qu'on peut vraiment faire des grosses erreurs et enlever des couches originales en toute bonne foi et s'apercevoir après coup du mal qu'on a fait. Donc là, on est obligé de multiplier les études, les références, et pour bien être sûr de son coup avant de se lancer dans ce genre de bassin. J'en termine avec les analyses non-invasives. Vous avez vu donc qu'on a plusieurs méthodes d'analyse qui sont fondées sur des prélèvements de matière. On a développé, c'est une des particularités du laboratoire de recherche des musées, toute une série de méthodes qui sont fondées sur l'excitation de la matière. Vous savez tous que lorsqu'on excite quelqu'un, il va réagir. Si vous tapez dessus, il va plier. Et lorsqu'on excite un atome, surtout si on lui arrache un électron, il va réagir en envoyant une réponse dans les X. Et c'est cette réponse-là qu'on va essayer d'analyser grâce à un spectromètre qui va nous donner des résultats. Vous comprendrez qu'on n'avait pas eu le droit de faire de prélèvement sur la Joconde, qu'on a été obligé d'utiliser tous les matériaux, tous les processus d'analyse non invasifs que nous avions pour essayer de faire parler la matière sans en prendre la moindre parcelle. Et donc là, vous avez un appareil de fluorescence X qui est braqué sur le tableau et qui va donc percuter les pigments pour arracher des électrons et pour voir quel type de réponse ils vont donner de façon complètement sans danger. Ce sont des rayons X, ce sont des rayons moins gênants que ceux que vous avez vous-même lorsque vous passez chez le médecin. Donc il n'y a aucune espèce de crainte de réaction sur l'œuvre à une autre. Et une fois que donc, les matériaux sont excités, vous avez des réponses qui apparaissent sous la forme de pics sur le spectre dont vous avez ici un exemple. Vous voyez que le calcium a une réponse qui se situe dans une zone particulière du spectre. Le fer est légèrement décalé, vient le cobalt, le nickel, le cuivre, le plomb. Chaque élément chimique a une réponse à un endroit donné. Parfois les pics se mélangent, donc c'est pas aussi simple que ça à examiner. Puis on a des réponses qui sont sur toute la profondeur. Donc il faut ensuite savoir si le plomb qu'on trouve se trouve en surface ou plus ou moins profondément. Donc il y a toute une zone d'interprétation qui est à mettre ensuite en œuvre. On essaye en ce moment avec le laboratoire de Berlin de faire de la fluorescence X en trois dimensions pour avoir des réponses en profondeur, mais c'est beaucoup plus long et c'est pas encore trop opérant. Mais malgré cela, ça vous donne des informations extrêmement intéressantes sur les pigments utilisés sans être obligé de faire un quelconque prélèvement. La suivante. J'en termine là avec le dernier exemple qui est notre Rolls-Royce, qui est Aglaé, ça s'appelle comme ça, c'est notre accélérateur grand louvre d'analyse élémentaire. C'est un accélérateur donc, de particules qui a maintenant 20 ans. C'est le seul équipement de ce genre au monde dans un musée. Il y a d'autres accélérateurs de particules dans des laboratoires, dans des grands établissements, mais aucun musée au monde n'a ce genre d'outillage. Grâce à quoi la plupart des musées d'Europe se tournent vers nous lorsqu'ils ont des œuvres importantes à analyser, parce qu'ils ont confiance en nos procédés. Et on a très souvent des œuvres qui viennent de Londres, de Berlin, de Florence, de n'importe où en Europe, pour ce type d'analyse, donc qui est fait par une accélération. On a vu tout à l'heure la fluorescence X, c'était des rayons X. Là, c'est des flux de protons qui viennent frapper la matière et qui donnent une réponse dans les X qui est beaucoup plus précise en fait que celle qu'on a par la fluorescence X. Vous avez là donc un schéma de notre image avec le scribe à copie à l'arrière. Mais l'exemple que je vais vous donner n'est pas le scribe à copie, c'est une petite déesse qui se trouve au milieu du Louvre, qui est la déesse Ishtar. Donc, qui est une déesse qui doit faire environ 20 cm de haut, qui est en albâtre, et qui a trois incrustations de pierres rouges, donc sur le nombril, dans les deux yeux, avec des colliers d'or et des boucles d'oreilles d'or. C'est une pièce minuscule, mais qui est vraiment magnifique, et qui a toujours fasciné les spécialistes, parce que ces yeux rouges qui nous fixent, on ne savait pas trop si c'était des daguerreotteries ou des pierres précieuses. Et on nous a apporté cette pièce pour nous demander de quoi il s'agissait, quelle était la nature des éléments. La suivante. Donc la déesse Ishtar a été mise sous le sous Aglaé, dans le, soumise à, donc, à une accélération de protons. On a marqué ça sur les yeux de la figure. Oui. Et on a donc eu une réponse d'un spectre des éléments présents qui nous a montré la présence. Le lire parce que je vais me tromper. D'aluminium, d'oxygène avec un tout petit peu de chrome, ce qui est typique du rubis, puisque le rubis est un cristal d'alumine coloré par du chrome. Donc là, on était certain que ces petites pierres pour les yeux et pour le nombril étaient véritablement du rubis. Le problème qui se posait, c'est que cette statue a été extraite de fouilles à Babylone, au 1er ou au 2e siècle. Date du 1er ou du 2e siècle, au contraire, c'était d'où venaient ces rubis. Parce que plusieurs zones d'extraction de rubis sont connues en Afghanistan, en Inde, en Birmanie, en Thaïlande, au Vietnam ou au Cambodge. Et il s'est posé donc cette question, est-ce que on peut savoir, ça nous préciser d'où viennent ces rubis. La fluorescence X n'aurait donné aucune réponse, mais la caractéristique de notre accélérateur de particules est d'être suffisamment précise pour vous donner des indications sur les éléments traces. On voit aussi qu'il y a sur les éléments extrêmement présents en faible teneur, dans ce que l'on analyse. Et donc ici, on a repéré la présence de vanadium, de titane, de chrome, qui nous ont permis de faire la suivante, de rattacher les rubis à un groupe particulier, qui était un groupe de Birmanie, de Vietnam et du Sri Lanka. C'était l'un de ces trois gisements que ces rubis venaient. Il a fallu ensuite faire appel à des spécialistes de gémologie pour étudier les rubis sous binoculaire, pour opérer des inclusions de courtes aiguilles qui sont caractéristiques des rubis birmans. Donc on est absolument certain par tous les analyses non invasives, aucun prélèvement bien entendu, que nos fameux rubis viennent de Birmanie, c'est-à-dire de très loin dans le monde, à une époque très ancienne, et c'est la première trace d'un comète aussi lointain, de pierres précieuses, qu'on a pu repérer. J'en termine avec une toute petite conclusion pour essayer de vous montrer que j'essaie de répondre à la question. Parfois on dit mais la science n'a rien à faire avec les arts, sont des domaines qui sont complètement étrangers. Je crois qu'au contraire, la science a beaucoup à apporter aux arts, parce que véritablement il y a des méthodes d'approche qui sont extrêmement performantes, des instruments vous l'avez vu, apportent beaucoup d'informations pour la connaissance artistique. Tout comme les arts apportent aussi beaucoup à la science, parce qu'elle donne de la vie, elle donne de la qualité spirituelle, je dirais, à l'examen des sciences. C'est plutôt des choses qui sont indissociables. Il faut garder en tête les arts et les sciences. Et puis, comme disait Léonard Vinci, la suivante, l'amour de quelque chose est le filleul de sa connaissance. Mieux on connaît les choses, mieux on les apprécie. Et je crois que c'est un petit peu ce qu'apporte la science. Voilà. Merci.